Europe 1.
Les secours sont-ils intervenus trop tard sur la manifestation de Sainte-Soline la semaine dernière alors que deux militants étaient grièvement blessés?
Et oui, la polémique enfle, vous l'avez dit, depuis la publication par Le Monde et Mediapart d'une conversation téléphonique entre un opérateur du SAMU et un médecin d'une équipe d'observateurs de la Ligue des droits de l'homme. Le SAMU explique ne pas avoir eu l'autorisation d'envoyer des secours sur place. Question simple, William Molinier, est-ce que les gendarmes ont commis une faute?
Eh bien non, aucun fautif, a confirmé le chef du SAMU des Deux-Sèvres. Les secours ne pouvaient pas rentrer dans la zone où se trouvaient les manifestants blessés, tout simplement parce que c'était considéré par les gendarmes comme trop dangereux et leur décision a été la bonne. C'est ce qu'a défendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cet après-midi au Sénat.
Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. Et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des puits de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur.
D'après les autorités, aucun manquement n'a été mis en lumière. Au contraire, un médecin militaire est lui-même intervenu pour secourir des manifestants gravement blessés au péril de son intégrité physique, selon les termes du directeur général de la gendarmerie nationale.
William Molinier, un manifestant de 32 ans, est toujours entre la vie et la mort. Sa famille a porté plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. La famille de l'autre militant grièvement blessé en a fait autant.
Le dialogue va-t-il enfin s'installer entre le gouvernement et les syndicats? Elisabeth Borne invite ces mêmes syndicats à Matignon la semaine prochaine.
Oui, vraisemblablement avant la 11e journée de mobilisation prévue jeudi. Le jour n'est pas encore arrêté. Quelle est la marge de manœuvre de la Première ministre Arthur de Laborde?
Eh bien, elle est quasi nulle. L'exécutif ne veut absolument pas revenir sur les points clés de la réforme. Pas question de bouger sur l'âge de départ à 64 ans. Pour autant, le patron de la CFDT, Laurent Berger, promet de claquer la porte si le point n'est pas évoqué. C'est pourquoi, à ce stade, Matignon reste flou et explique que l'ordre du jour de la réunion n'est pas figé. L'entourage de la Première ministre indique que les discussions porteront sur le thème du travail, tout en assurant que les syndicats pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent. Interrogée tout à l'heure au Sénat, Elisabeth Borne a expliqué que ces discussions avec les partenaires sociaux s'inscrirait dans le cadre plus large des consultations qu'elle va mener dans les prochains jours.
Il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés. Aujourd'hui, il ne faut pas renoncer à agir. Au contraire, il faut accélérer, apporter des réponses concrètes qui améliorent le quotidien des Françaises et des Français.
Apaiser et agir avec des solutions concrètes, ce sont donc les deux axes sur lesquels la Première ministre entend faire reposer le projet de gouvernement et l'agenda législatif qu'Emmanuel Macron lui a demandé de bâtir dans les prochaines semaines.
Arthur de Laborde.
Et sur cette réforme des retraites, il y a bien un avis très attendu, c'est celui du Conseil constitutionnel.
Oui, avis qui sera rendu dans un peu plus de deux semaines, le 14 avril. Si le texte a de grandes chances de passer, Mayalène Trémollet, une censure partielle est possible.
Oui, sauf surprise, pas de censure totale du texte ou de modifications importantes. Pas de grand risque donc de revenir sur l'article 7, celui de l'âge de départ à la retraite. Les réclamations de la gauche et du RN concernent surtout le véhicule législatif. La manière dont le gouvernement a fait passer en force son projet de loi avec l'utilisation de l'article 47.1 de la Constitution. Les sages ont accepté un échange oral sur le sujet le 4 avril avec les oppositions, mais là aussi, peu de chances qu'elle soit écoutée. Historiquement, jamais le Conseil constitutionnel n'a censuré un usage abusif du 47.1. Il traque surtout ce qu'on appelle les cavaliers sociaux, c'est-à-dire les mesures sans véritable lien avec la réforme des retraites. En clair, les sages pourraient revenir sur l'index ou les CDI seniors, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le projet de loi. Enfin, le Conseil constitutionnel devra valider ou rejeter le référendum d'initiative partagée, le RIP, dont l'objectif est clair, conserver l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Décision rendue, elle aussi, le 14 avril.
Mayalène Trémollet. Quant à Emmanuel Macron, en pleine crise, il a programmé pour demain son premier déplacement en région depuis deux mois. Ce sera à Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, pour présenter le plan sur la gestion de l'eau. Et puis, mieux vaut ne pas insulter le président publiquement. Une militante gilet jaune sera jugée en juin pour avoir qualifié Emmanuel Macron d'ordure sur sa page Facebook. La sous-préfecture avait déposé plainte. Elle risque jusqu'à 12 000 euros d'amende.
La grève dans les raffineries continue. Environ 15% des stations-service manquent d'au moins un carburant.
Et oui, après la Provence et l'Ouest, c'est maintenant l'Île-de-France qui est touchée. On revoit les scènes d'octobre dernier avec une foule d'automobilistes patientant devant les stations. C'était le cas aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux, comme l'a constaté Chloé Lagadou.
À la pompe, la file d'attente ne cesse de s'allonger. Alain remplit son réservoir. Il s'est rendu dans plusieurs stations avant de trouver du carburant.
Là, toutes les stations que j'ai vues étaient vides. Sur la route, 3-4, il n'y a plus d'essence. Il n'y a que du diesel. 7 jours sur 7, j'ai besoin de ma voiture. J'espère qu'ils vont débloquer tout ça, sinon on est mal.
L'agacement se fait sentir chez les automobilistes. Obligé de faire le plein de son camion pour travailler, Frédéric est lassé par la situation.
Faire la queue 2 heures tous les 3 jours, c'est une vraie galère. Là, je suis vraiment à sec, là, pour le coup. J'ai vraiment pas le choix. Les gens qui bossent, il faut les laisser bosser. Il y a d'autres moyens d'emmerder l'État.
Pour gagner du temps et éviter de chercher du carburant pendant des heures, Alexandre, lui, anticipe.
Je cherche à l'avance pour éviter de me retrouver en fait, à faire la queue pour rien dans les stations où il n'y a pas d'essence. Moi, j'avais fait le repérage avant de partir, donc je savais qu'il n'y avait pas trop d'essence et j'ai une application aussi. Donc je peux checker les stations où il reste de l'essence. Et celle-ci, il en restait, j'ai appelé avant de venir.
Une technique qui pourrait aider les automobilistes à trouver du carburant plus facilement, surtout à l'approche des vacances de printemps.
Et puis la grève des éboueurs est suspendue en région parisienne, mais des blocages ont été organisés aujourd'hui pour empêcher l'accès à 2 des 3 incinérateurs.
Les contrôleurs du ciel poursuivent eux aussi leurs actions avec de nouvelles annulations de vols entre demain et dimanche.
20% des vols annulés à Orly, mais aussi à Bordeaux, Toulouse ou Nantes. Impact sur les voyageurs, bien évidemment, mais aussi sur les compagnies qui survolent la France et doivent subir des retards et des annulations. D'où ce cri de colère du patron de Ryanair, Michael O'Leary.
Sur les 3 premiers mois de l'année dernière, il y a eu 3 jours de grève des contrôleurs aériens français. Sur les 3 premiers mois de cette année, il y en a déjà eu 23 et ce n'est pas fini. Je vais vous donner un exemple. Le week-end dernier, nous avons eu une grève du contrôle aérien français. Chez Ryanair, nous avons dû annuler 230 vols. Nous avons dû dire à 41 000 passagers, votre vol est annulé parce qu'à cause d'une grève, le contrôle aérien français ne nous autorise pas à survoler le pays. Et toutes ces annulations concernent des survols, donc pour des Britanniques qui voyagent en Espagne, des Allemands qui vont au Portugal, des Irlandais qui se rendent en Italie, nous avons des vols annulés ou fortement retardés tous les jours parce que les contrôleurs aériens français se mettent en grève.
Le patron de Ryanair qui demande d'ailleurs à la Commission de Bruxelles d'instaurer un service minimum à l'échelon européen. Et puis on apprend ce soir que l'enseigne de prêt-à-porter féminin Pimki compte fermer 64 magasins d'ici 2027. Ça conduira à supprimer 257 postes.
Il est 19h10 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Un peu de légèreté avec des températures particulièrement clémentes dans les Hautes-Pyrénées et un successeur pour Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de football. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Bientôt 19h12 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Et avant de retrouver Valérie Darmon, on parle déjà météo.
Et oui, parce qu'il a fait particulièrement doux ce mercredi à cause de la remontée d'un air subsaharien. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 30 degrés à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Manche courte et ambiance estivale, Benjamin Péter.
On est en été, c'est tellement génial, j'adore.
Au pied d'un arbre, Corinne finit son livre. Il fait chaud, elle savoure l'instant, pas question de culpabiliser.
On n'y peut rien pour la météo, donc quand il fait beau, il faut en profiter. Un bouquin, du soleil, donc bon moment.
Ils sont nombreux comme elle à avoir choisi le jardin Massé au cœur du centre-ville pour passer l'après-midi. On croise des bébés en body abrités d'une ombrelle, des gens en short ou en robe d'été, et même des étudiants qui révisent sur les pelouses, des scènes qu'on ne voit généralement qu'au mois de juin à l'approche du bac.
Ça c'est pour l'oral de stage,
d'accord,
qui a lieu demain pour le BTS.
Stéphanie et Célia profitent de cette journée mais se rendent bien compte que ça n'a rien de normal.
Je pense que notre génération elle s'en rend compte aussi, qu'il y a vraiment un réchauffement climatique un peu plus caché.
On n'a pas trop le choix, c'est ça, ouais. On ne va pas s'enfermer chez nous parce qu'il fait 28 degrés et qu'il y a le réchauffement climatique non plus. Pas s'empêcher de vivre.
Ginette, 80 ans, elle est venue lire sur un banc et profiter de ce coin de nature.
Regardez, ça nous permet de voir tous ces beaux parcs de tulipes. Là, hein. La semaine prochaine, ils annoncent des gelées. Si jamais un coup de gelée, tout est ratatiné, c'est pas marrant. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Obligé de prendre ce qui vient.
En effet, dès demain, la température devrait retomber à des normales de saison et le thermomètre ne dépassera pas 11 degrés seulement ce week-end. Il faudra ressortir les pulls et les doudounes. À Tarbes, Benjamin Péter, Europe 1.
Et enfin, une éclaircie pour l'équipe de France féminine de football. Elle a peut-être enfin trouvé son sélectionneur.
Oui, 3 semaines après l'éviction de Corinne Diacre, contestée par une partie de ses joueuses, le grand favori à sa succession, Hervé Renard, a démissionné hier de son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Il devrait s'engager dans les prochaines heures avec la Fédération française, Martin Lange.
Oui, l'information a fuité hier soir, quelques heures seulement après la défaite de l'équipe nationale saoudienne face à la Bolivie. Hervé Renard quitte la team Melli. Malgré un contrat qui courait jusqu'en 2027 et quelques mois seulement après un brillant mondial, on le rappelle, l'Arabie saoudite fut la seule équipe à battre l'Argentine, future championne du monde. Mais Hervé Renard voulait absolument rentrer en France. Il a quand même tenu à remercier les fans saoudiens.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu durant ce formidable moment en Arabie saoudite. Ce n'est jamais simple de prendre ce genre de décision.
Hervé Renard devrait atterrir en France demain. Selon nos informations, il n'a toujours pas signé de contrat avec la Fédération française de football. Alors il ne gagnera pas autant qu'Ariad, évidemment, mais il est prêt à faire de gros efforts financiers. Après un début de carrière brillant en Afrique, notamment, il est toujours le seul sélectionneur à avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec deux pays différents, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Renard rêve de réussir chez lui, en France. Son arrivée pourrait être officialisée vendredi lors d'un COMEX consacré au football féminin. Et il sera très vite dans le bain, Hélène, puisque les Bleus jouent contre la Colombie dès vendredi prochain.
Espérons qu'ils n'auront pas sa peau. Martin Lange et cette arrivée probable d'Hervé Renard. On y revient largement dans Europe 1 Sport entre 20h et 23h avec Céline Géraud. Et puis un mot de rugby. Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du tournoi des 6 nations. À 26 ans, le demi-mêlé et capitaine du 15 de France affiche au compteur 47 sélections. On vous emmène maintenant sur le terrain des marchés financiers.
Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse.
Claire Lemaître de boursier.com, eh bien vous nous annoncez que Paris a terminé en grande forme.
On se rapproche des 7200 points, 7187 points pour le CAC 40 grâce à un gain de 1,4%. Le secteur des semi-conducteurs est particulièrement en forme, celui du luxe également. En revanche, la chute du jour est signée par Atos, chute de près de 17%. L'avionneur Airbus jette l'éponge et renonce à son projet de prise de participation dans sa future branche de transformation digitale et de cybersécurité. Ailleurs en Europe, Francfort gagne 1,2%, plus 1,1% pour Londres, plus 1,6% pour Amsterdam et plus 1,4% pour le CAC 40 à Paris.
Merci Claire Lemaître.
Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé? C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr.
Et merci à vous Hélène Zélani, à tout à l'heure 20h pour un nouveau point sur l'information sur Europe 1. Je vous rappelle le numéro du standard, le 3921 pour intervenir à l'antenne, poser vos questions à Éric Brocardi, porte-parole des pompiers, nous rejoint après la météo de Valérie Darmon pour venir revenir sur cette polémique qui enfle après le week-end de violence à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. La météo donc, on l'a évoqué pendant le journal avec vous tout à l'heure dans les titres, Valérie, de nombreux records de chaleur ont été battu aujourd'hui.
Ben oui, effectivement. À Biarritz, le mercure qui était exceptionnel avec une minimale de 18,9 degrés ce matin, une maximale de 28,6. En 79, il n'y a pas fait aussi chaud de toute l'année. Il a aussi fait, comme prévu, 30 degrés 1 à Dax, à Mont-de-Marsan, 28,6 à Saint-Martin-Curton, dans Lot-et-Garonne, 26,8 à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, par exemple.
Et est-ce que cette douceur va durer demain, Valérie ?
Eh bien, pas du tout. Les maximales vont atteindre 14 à 18 sur la moitié nord et le sud-est. En nette baisse, évidemment, sur le sud-ouest. Il faut dire qu'on était sur des valeurs dignes d'un mois de juillet quand même. Oh. Hein. Donc voilà. Oui. Donc elles ne vont pas afficher plus de 21 à 24. 23 annoncés, par exemple, à Mont-de-Marsan, à Pau, Tarbes et Perpignan. 22 à Carcassonne, 21 à Bordeaux et à Lyon. 19 à Saint-Étienne, 18 à Paris, 17 à Nice et à Chartres. 15 degrés à Brest. On est au-dessus des normales de saison, toujours. Et puis du côté du ciel, eh bien, du nord de la Nouvelle-Aquitaine aux Alpes du Nord à la Franche-Comté, c'est un temps instable qui s'installe, dès le lever du jour d'ailleurs, avec un ciel très chargé, porteur de nombreuses averses, un risque d'orage d'ailleurs à prévoir. Au sud, vous ouvrez vos volets sur un ciel plus variable, entre éclaircies et passages nuageux, et puis le soleil qui est toujours très généreux en PACA et en Corse. Mais on a une nouvelle dégradation pluvieuse et surtout venteuse qui aborde en soirée la Bretagne.
Merci beaucoup Valérie Darmon, on vous retrouve peu après 23h tout à l'heure sur Europe 1 pour un nouveau point sur les couleurs du ciel. Dans quelques instants, nous serons avec Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers. Nous allons lui poser cette question. Que s'est-il passé à Sainte-Soline samedi dernier dans les Deux-Sèvres? Vous avez sûrement vu ces images d'extrême violence, d'affrontements entre manifestants anti-bassine et forces de l'ordre. Une polémique enfle depuis la publication par Le Monde et Mediapart d'enregistrement notamment de la Ligue des droits de l'homme, les forces de l'ordre auraient pu avoir empêché les secours d'intervenir directement sur place. Vous savez que deux manifestants ont été particulièrement blessés. L'un d'eux voit son pronostic vital engagé encore ce soir. Vos questions, vos réactions sont les bienvenues au 39-21, le standard d'Europe 1. A tout de suite.
Europe 1 soir.
Raphaël Delvolvé.